Petrus Borel, le trésor de la caverne d'Arcueil. Au commencement du siècle dernier, il y avait à la Bastille un jeune homme qui se disait hollandais, prenait le titre de comte et prétendait appartenir à l'illustre maison des marquis de Brederode, seigneurs de Vianen près d'Utrecht. Chaque fois que ses compagnons de captivité le questionnaient sur la cause de son incarcération, ce mystérieux personnage ne le répondait que par le récit bizarre qui va suivre. À la faveur d'une fable, voulait-il cacher le véritable motif de son emprisonnement? Une longue et cruelle détention avait-elle aliéné son esprit? Disait-il vrai, bien que la chose fût prévraisemblable, ou cette aventure n'était-elle qu'une imagination de sa tête égarée? On ne sait, je l'ignore, et sans doute on l'ignorera toujours. Des registres même de la Bastille ne portent que la date de son entrée et la date de sa sortie, et sans ce que nous ont appris quelques prisonniers qui avaient reçu ses confidences et qui, plus heureux que lui, virent un terme à leur infortune, cette victime d'une faute assurément moins grande que le châtiment fut restée tout à fait inconnue. Quoi, naître, avoir 20 ans, être jeté dans un cachot, y mourir, sans même laisser après soi la trace d'un pas ou le bruit d'une plainte? Quoi, souffrir et se dire « La postérité n'aura point de larmes pour moi et ne refera point le jugement de mes juges. » Mais peut-il être au monde un sort plus affreux? Mais détournons bien vite notre esprit d'une réflexion si sombre. Venons sans préambule à l'histoire étrange, ou plutôt au rêve, que racontait notre prisonnier, et tâchons comme lui, au moyen de malheurs bien singuliers, sinon imaginaires, d'oublier des malheurs plus réels. Brederode, que nous allons laisser parler lui-même, de peur d'altérer en rien la naïveté et l'originalité de sa parole, s'exprimait ainsi d'ordinaire. Un soir, je ne sais au juste quelle heure achevait de sonner à la paroisse Saint-Gervais, je traversais la grève et, comme j'arrivais à l'une des extrémités de cette place, tout à coup, une voix tonnante, partie d'un cabaret voisin, m'appela. « Hé, l'ami, comte de Meaux, entrez donc !» Après avoir hésité quelques instants, je me rendis à cette brusque invitation. « Qui diantre m'appelle ici ? Ah, c'est vous, mon révérend ! » m'écriai-je. J'avais aperçu à table, vis-à-vis de quelques bouteilles, un moine avec lequel je me trouvais lié depuis peu, et qui, pour ne point contrarier l'usage, était fleuri au possible et passablement rebondi. « Soyez le bienvenu, mon cher ami, me dit le cénobite, prenez un siège et faites-nous l'honneur de trinquer avec nous. Goûtez, je vous prie, à ce coquin de petit vin d'Aquitaine. Allons donc, ne faites pas de façon. Buvons et disons gloire au Seigneur. À propos du Seigneur, avez-vous peur du diable ? Oh non, mon révérend, vous n'avez pas peur du diable, vive Dieu, mais vous êtes un homme. Remplissons nos verres et portons un salut à sa santé. Ben, ceci passe les bornes, mon révérend. Je ne redoute pas le diable, assurément, mais je ne dis pas pour cela que je l'affectionne. Bon, trinquez à sa prospérité, si bon vous semble. Quant à moi, je m'en abstiendrai. Vous avez donc peur du diable ? Mon révérend, je vous ai donné l'assurance du contraire. Ah, tant mieux, car je veux faire votre fortune, répliqua le moine en baissant la voix et en affectant un air de bienveillance. Faire ma fortune ? Merci, mon père, vous êtes bien honnête, mais par le temps présent, ce n'est pas chose facile qu'une fortune à faire, à moins d'aller annoncer le Saint-Évangile dans les Indes. Non, écoutez-moi, mon cher comte, je vous parle sérieusement. Nous devons enlever à Arcueil un trésor caché dans une caverne. Tout est préparé pour faire réussir l'entreprise dès ce soir même, n'en doutez pas. Venez si vous l'osez et vous partagerez avec nous les sommes énormes du trésor. Vraiment, mon père, mais ceci est une chose vieille et connue, dis-je alors en souriant, car je voulais m'amuser aux dépens du moine et de sa confidence. Il y a longtemps que j'ai entendu parler du trésor enfoui dans la caverne d'Arcueil. Ceci prendra un peu tard, l'oiseau est déniché. L'oiseau est déniché, non, certes. Vous êtes mal informé, mon jeune ami. Et avec l'assistance du diable, croyez-le bien, nous trouverons dans le nid toute la couvée. Avec l'assistance du diable? Oh, je ne vois pas trop, à vous parler franchement, mon père. Comment et pourquoi Satan se mettrait en possession de ce trésor? Et encore moins comment, après s'en être rendu le maître, il serait assez bête pour le livrer au commandement d'un pistolet ou d'un jongleur. « Venez avec nous seulement, cher comte, » me répondit de nouveau et sans s'émouvoir le prieur. Car notre moine, qui au mépris de la robe et de l'épée, avait épousé le froc pour s'épurer sur la terre dans les afflictions, possédait en Normandie un riche prieuré. « Venez seulement avec nous, soyez ferme et résolu, et demain, vous ne révoquerez plus en doute la réalité des puissances occultes. » « Mais quel est le prêtre, le sorcier ou l'exorciste ?» demandai-je alors au saint adepte, plutôt pour me jouer de sa crédulité que par un véritable intérêt. « C'est moi, le prêtre exorciste, moi, mon cher comte, votre très humble serviteur et père en Dieu. Quant au magicien, il vous surprendra beaucoup. Lorsque vous le connaîtrez, vous en resterez ébahi. Attendez, justement, le voici. » « Ma foi, il arrive on ne peut plus à propos, comme un personnage de comédie. » Une jeune fille, accompagnée de plusieurs hommes, à mine plus ou moins hétéroclite, entrait en effet en ce moment. « très bien, messieurs, leur dit-il. Je vous fais compliment, vous êtes gens de parole. » Puis il ajouta, en me désignant, « J'ai l'avantage, messieurs, de vous présenter un nouveau compagnon. » Monsieur le comte de Brederode, seigneur hollandais, qui daigne m'honorer de son amitié. Messieurs, je vous réponds de lui comme de moi. C'est un bon et brave gentilhomme, aussi loyal que son épée. Vous, mademoiselle, approchez, saluez monsieur le comte, poursuivit notre prieur, prenant la jeune fille par la main. Et vous, monseigneur, murmura-t-il à mon oreille, rendez hommage au terrible nécromancien. « Terrible ?» répétai-je, ouvrant de grands yeux et toisant la belle inconnue. « Non, sur l'honneur, une personne aussi séduisante, aussi accomplie, bien loin de m'inspirer de l'effroi, me mettrait volontiers de doux sentiments dans le cœur, et certes, je m'estimerais fort heureux d'entrer en commerce avec une si ravissante Circé. Suzanne, cher comte, fait pourtant trembler le diable, ainsi que vous le verrez bientôt. » « S'il tremble, le vieux mécréant, ce n'est, je gage, que d'attendrissement, » repartis-je. Puis m'adressant à Suzanne, « Or ça, confiez-moi, ma belle enfant, lui dis-je, qui vous a si bien instruite en diablerie, en magie. » Cette science, monsieur, est héréditaire dans notre famille. Mon père était le plus habile sorcier des Landes. Bien qu'il ne fît qu'un simple berger, 100 fois il fit descendre la lune et danser le soleil. « 110 !» m'écriai-je, « ceci, ma colombe, se sent un peu de la garenne. » Sans être trop curieux, cependant, je donnerais bien 10 bons louis d'or de bon aloi pour savoir au juste, belle enchanteresse, quelle descente faisait la lune et pour avoir l'air noté du menuet que dansait l'astre du jour. Mais, sans me donner le temps de poursuivre ma plaisanterie, le prieur, m'ayant engagé à prendre la main de la jeune évocatrice, m'invita, ainsi que toute la compagnie, à passer dans l'arrière-salle du cabaret, où un fin et copieux souper nous était servi. Le bon moine n'était pas sans crédit auprès de l'hôtesse, et d'ailleurs, ce n'était, disait-il, qu'un acompte pris par avancement d'Houarie, sur le gros trésor qui nous attendait dans la grotte d'Arcueil. Le repas fut des plus joyeux, la pitance ne fut pas ménagée, ni surtout le vin. Mais le maraud, quand on le ménage pas, ne nous épargne guère. Il a bientôt mis à l'envers cette raison humaine dont nous sommes si fiers. Quand je dis à l'envers, je parle dubitativement et je suppose, ce qui est certainement fort contestable, qu'elle est ordinairement à l'endroit. C'est une chose vraiment merveilleuse que la puissance du vin. Elle sait en un instant vous faire un âne d'un lion le plus superbe. Un génie homérique qui dominerait tous les génies, une raison à la Descartes qui surpasserait toutes les raisons, avec une cruche de Jules Rhin, oh, vous l'anéantissez. Avec 6 sous d'alcool, vous enlevez un Blaise Pascal toute sa logique, et pour un petit écu d'hydromel ou de marasquin, vous faites d'un élégant Monsieur Régnard un chien couché sous une porte. Mais revenons à nos sorciers, que nous retrouvons aimables et tout remplis d'une gaieté à portée de la cave, comme nous l'avons dit. La conversation s'était échauffée, c'était un bruit à rendre sourd, un véritable désordre. « Il est bien convenu, criait l'un, que le partage sera fait également entre tous. »« En vérité, reprenait l'autre, si le trésor est aussi riche qu'on nous l'assure et si la part de chacun est énorme, je ne sais, foi d'honnête homme, ce que je pourrais faire de la mienne. » La chose pourtant n'est pas embarrassante, répliquait le parieur. Pour mon compte, cela ne m'inquiète guère. J'en ferai, que sais-je, bâtir une chapelle, ou plutôt un couvent délicieux, que j'emplirai de nonnes fraîches et bien choisies. Et comme directeur et fondateur, il va sans dire que je m'y réserverai mes grandes et petites entrées. J'approuve fortement ce ravissant dessein, et je l'imiterai volontiers, mon révérend. Si je n'étais laïque, dis-je, alors moi-même, pour prendre part à cette folie générale qui commençait sérieusement à me divertir. Belle difficulté, mon ami, repartit de nouveau le bon moine. Vous êtes laïque, bien allez en Syrie et bâtissez un harem. Oh, mais vous avez l'esprit fertile et plein de ressources, cher et vénérable prieur. Mais je vous remercie, lui répondis-je gaiement à mon tour. Je n'aime pas les Turcs, ils n'aiment guère les papistes, ces huguenots sauvages qui se permettent d'accommoder si rudement tout ce qui tombe entre leurs mains. Vraiment, je ne suis pas comme le perdre qui veut être rôti, ou comme le rable du lièvre qui demande à être mis à la broche, ainsi qu'on peut le voir au cuisinier royal. Et vous, père le bègue, poursuivis-je, me tournant vers un petit personnage d'un aspect fort original, qui jusque-là avait gardé le silence, et que je venais de reconnaître pour un célèbre musicien de Saint-Roch. « Alors voyons, dites-nous, je vous prie, que ferez-vous de votre part ?»« Ce que j'en ferai, messieurs, » riposta vivement le bonhomme avec l'énergie que procure un bon repas, et s'adressant à l'assemblée, qui se calma aussitôt pour mieux entendre sa réponse. « Ce que j'en ferai, je donnerai sur le champ congé au roi. » Je lui dirai, sire, vous m'ennuyez, cherchez un autre organiste. Puis au lieu de fonder à votre instar des réclusions ou des sérails, je ferai bâtir une immense salle de concert avec un buffet d'orgue merveilleux où tout le peuple serait admis gratuitement, comme jadis le peuple romain dans le cirque. Puis j'établirai un conservatorio, comme il en existe depuis longtemps en Italie, ce dont notre pauvre France a grand besoin. Hélas, messieurs, la musique s'en va. L'école flamande est morte. La bonne école de Lully s'efface de plus en plus chaque jour. C'est à peine si vous trouveriez deux bons chanteurs en Picardie, ma patrie en Picardie, ou toute l'Europe, ou Rome, ou Naples, il n'y a pas un siècle, venaient chercher leurs habiles musiciens, comme aujourd'hui on va chercher la morue au grand banc de Terre-Neuve. Un rire unanime accueillit cette étrange palinodie, et chacun de déclarer au père le bègue qu'il avait le cerveau détraqué, comme ses orgues, qu'il était fou. Les plus turbulents criaient « Vive les buffets d'office, à bas les buffets d'orgue !» Et de son ombre était notre moine à la voix forte et à la mine rubicorde et joufflue. « Mais quant à moi, messieurs, leur dis-je, Croyez-en le comte de Brederode. Je vous tiens tout ce temps que vous êtes pour autant de triples et quadruples fous, et je fais si peu de cas de la fortune que, chose à laquelle je ne crois nullement, s'il m'advenait sur ce trésor 50 000 louis pour ma part, j'achèterais immédiatement pour 20 000 louis d'encens, de myrrhe et de cinnamome, et pour 30 000 de bois de cèdre et de santal, que je ferais porter triomphalement au beau milieu de la plaine de Saint-Denis, afin de prouver au moins une fois, en y mettant le feu, ce dicton mensonger et vulgaire, que la richesse comme la gloire n'est qu'une vaine famée. Oh, pour le coup, pardonnez-nous cette franchise. C'est vous qui avez l'esprit égaré, monsieur le comte, me cria-t-on là-dessus de toutes parts. Ma proposition burlesque avait produit l'impression que j'en attendais. Elle avait mis la gaieté à son comble. Je laissai passer les premiers transports de cette hilarité, et lorsque le bruit se fut assez apaisé pour qu'il me fût possible de placer quelques paroles, j'entrepris avec un grand sang-froid de démontrer à nos tapageurs que, et non pas moi, était en démence, leur apportant pour dernière preuve qu'il n'y avait que des insensés qui puissent ainsi vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. À cette sage réflexion que j'avais lancée adroitement pour faire sentir à nos convives qu'ils s'oubliaient comme les soldats d'Hannibal dans les délices de Capoue, le prieur fit avancer sur le champ des carrosses de place où toute la tumultueuse compagnie ne tarda pas à se précipiter et à se ranger, chacun suivant ses affinités ou sa sympathie. Pour moi, je m'attachais à la personne de mon ami le cénobite comme un enfant à la roche de son menin. Au milieu de ces inconnus et de ces ténèbres, il était ma colonne de feu. Après un assez long et assez pénible trajet, qui n'offrit rien de bien digne de mémoire, nos modernes argonautes arrivèrent enfin sur le territoire d'Arcueil. Une personne affidée qu'on avait apostée secrètement dans la campagne et qui faisait le guet, accourut aussitôt devant de nous, et nous ayant introduits dans l'enclos mystérieux, elle nous mena vers l'antre du prétendu trésor. L'antre du trésor était une caverne obscure, cela va sans dire. Que serait une caverne si elle était obscure? Et que serait un traître s'il n'avait l'air rébarbatif et félon? Or, pendant que Suzanne, la gentille magicienne, se déshabillait, pourquoi se déshabillait-elle, je ne sais. Il est à croire toutefois que les vêtements, qui sont une chose contre nature, paralysent les sortilèges, puisque nous voyons les auteurs les plus scrupuleux et les mieux fanés, famés en user ainsi que leurs nécromants. Pendant, dis-je, que Suzanne se déshabillait, voulant jouer l'homme de sang-froid et de courage, une bougie à la main gauche et une épée dans la droite, j'entrai bravement dans la caverne, et je me mis à la parcourir dans tous les sens, mais sans y rien rencontrer, pas même un hibou. Suzanne, à son tour, y pénétra. Elle était sous le harnois d'un simple petit jupon garni d'une fine dentelle. Oh, l'appétissante petite sorcière! Elle portait un flambeau de résine et un grimoire tout large ouvert. Avec un seul homme de la troupe, je fus placé alors à l'entrée de la caverne. Le reste de la compagnie eut l'ordre de demeurer dans l'éloignement. Il y avait à peine quelques instants que mon compagnon et moi nous nous tenions ainsi aux écoutes, quand tout à coup nous entendîmes Suzanne parler et s'écrier d'une façon très impérative « Voilà bien des fois que tu fausses ta promesse. Je veux, je prétends, j'ordonne que tu me livres à l'instant le trésor. » À cette injonction, une voix, qui ne pouvait être à coup sûr que la voix d'un génie infernal, répondit « Tu ne sauras vaincre ma résistance cette nuit. Ne m'importune pas davantage. Il y a trop de monde avec toi. » Et si le prêtre, ton compagnon ou tout autre, s'avise d'enfreindre La loi que j'impose, je jure de lui tordre le cou en ta présence. » En entendant ce singulier discours, je partis d'un grand éclat de rire qui retentit longtemps dans la caverne. Était-ce un rire bien sincère, je n'oserais le croire, ni raffirmer aujourd'hui, car tout cet appareil nocturne n'était pas sans avoir fait quelque impression sur mon esprit. Il y a 10 à parier contre 1 que je frissonnais tout bas, comme dit Montaigne, dans la citadelle de mon pourpoint. Mon acolyte semblait pétrifié. Lui tordre le cou à ma présence? Non, 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 je ne le redoute pas, répliqua Suzanne. Non, je serais en empêché. Eh bien alors, cria la voix mystérieuse, tremble pour toi-même. Le diable, en proférant cette dernière menace, se mit, sans aucun respect pour la beauté, à maltraiter violemment Suzanne. On entendait résonner les coups sur son joli corps aussi distinctement que nous pouvons entendre d'ici sonner l'heure à l'horloge de la ville. Cela a été vraiment déchirant. Mon véritable chevalier, je voulus voler à la défense de la belle opprimée, mais mon compagnon me retint, jurant par le ciel et la terre que je serais perdu si je faisais un seul pas. Suzanne reparut bientôt, l'œil hagard, meurtri, échevelé, et cependant la courageuse enfant ne laissait pas échapper une plainte. Toute la compagnie s'était rassemblée autour d'elle, et chacun, avec intérêt, s'empressait de lui adresser quelques questions. « Et le trésor? Et le diable, mademoiselle ?» Quant à moi, j'avais repris mon air moqueur, et je plaisantais le prieur sur la brillante issue de son expédition. « Mon révérend, lui disais-je, n'a-t-il pas été convenu que le trésor, c'est-à-dire ce que le diable livrerait à la conjuration de notre jeune Hécate, serait partagé entre tous pareillement et que chacun de nous y aurait un droit égal? Faisons donc justice. » « Allons, belle Suzanne, allons, sans pitié, distribuez à chacun son dividende. Donnez-moi de grâce les coups qui me reviennent. » Mais le prieur faisait toujours assez bonne contenance. Il se contentait de répondre à ses railleries avec sa candeur habituelle. « Le diable, mon cher monsieur, n'est pas aussi traitable que vous semblez le croire. Ne riez pas ainsi. » Nous aurons sans doute meilleure chance la prochaine fois. » Et comme on allait se retirer et monter dans les carrosses pour regagner la ville, Suzanne proposa de tenter le lendemain un nouvel essai, ce qui sur le champ fut accepté. Le lendemain, en effet, ainsi que cela était convenu, tous nos chercheurs d'or se rassemblèrent au cabaret de la Grève, où nous soupâmes encore fort gaiement et toujours aux frais du trésor en perspective. Puis, à l'heure fixée pour le départ, nous nous mîmes en route pour la maison de campagne, théâtre de nos ténébreuses investigations, qui appartenait à l'une des personnes de la société. Là, au clair d'une pleine lune, à pas de loup et dans le silence, sur les 11h30, on se rendit dans le parc, où Suzanne, ayant fait jurer au propriétaire du lieu que nous étions seuls dans cette enceinte, nous plaça en sentinelle perdue, à diverses distances l'un de l'autre. Après quoi, elle décrivit autour de nous des cercles magiques et nous défendit expressément de sortir de ces anneaux mystérieux. Lorsque minuit sonna, la jeune magicienne monta sur un tertre assez élevé, situé à peu près au milieu de toutes les sentinelles, et détachant sa coiffure, elle laissa flotter ses longs cheveux sur ses belles épaules. Ensuite, elle se dépouilla modestement de tous ses habits, ne gardant encore cette fois que le harnois de son fin jupon garni de Valenciennes. Ce corps svelte et ravissant, éclairé et moiré par les rayons argentés de la lune, se dessinait sur des touffes de bagnaudier, comme les amours de l'Albane sur des rameilles vertes. Oh, cela était délicieux, Cela avait quelque chose d'antique et de druidesque. Ah, Suzanne, Suzanne, c'est toi qui recelais le précieux trésor. Quand je vis de nouveau la pauvre enfant dans ce simple équipage, je lui criai du milieu de mon cercle magique, car je n'avais point renoncé à mon rôle de railleur. Et là, ma belle, mais une cuirasse vous conviendrait mieux. Prenez garde, vous savez que le diable n'y allait pas de main morte dans la caverne. Aussitôt que le silence fut rétabli, Suzanne prit son grimoire. Elle s'agitait frénétiquement, elle murmurait des mots étranges et barbares, sans doute dans une de ces langues inconnues en usage dans les pays féeriques et que possèdent si bien M. le maître de Sacy et M. d'Herbelot. Mais, peu satisfaite de ses premiers enchantements, elle s'ouvrit adroitement une veine et, traçant avec une goutte de sang quelques caractères sur une feuille de chêne, elle la jeta au vent en poussant vers le ciel une singulière clameur. À ce cri significatif, tout à coup cinq cavaliers magnifiques, ou plutôt cinq spectres vêtus de pourpre, de blanc, d'azur, de noir et d'aurore, apparurent dans les airs et vinrent caracoler au-dessus de sa tête comme un reflet prismatique qu'un enfant se plaît à faire papillonner sur un mur. Semblant s'élever soudain jusqu'à eux, Suzanne disparut bientôt à notre grande stupéfaction. Je ne sais ce que pouvaient être ces fantômes aériens, de quelle région ils venaient, ni dans quelle région ils l'emmenèrent. Mais ce que je sais bien, c'est que l'absence de notre magicienne se prolongeait beaucoup et que chacun, à son poste, commençait à s'ennuyer considérablement. Par Saint-Vaast, mon patron, ventrebleu, mon révérend, dis-je alors au prieur, est-ce que nous allons passer ainsi toute la nuit en espalier? Nous finirons par drageonner et pousser du chevelu, qu'attendons-nous? Ne voyez-vous pas, messieurs, que c'est un tour de passe-passe? Tandis que nous demeurons là, comme des niais à nous morfondre, je gage 10 pistoles que la belle repose sur un bon lit de plumes, se pâmant de rire en songeant à nous. Si l'on ne peut sortir de son cercle, au moins, mon révérend, peut-on y coucher? Je voudrais, pour me distraire, écouter pousser l'herbe. Chut, monsieur le comte, chut! Vous blasphémez! Cria notre moine en grand émoi et de toute la puissance de sa poitrine. Messieurs, messieurs, restez en place! Je vous en prie, ne bougez pas, ou vous êtes morts! Mais heureusement, les cinq cavaliers aux couleurs prismatiques reparurent tout à coup, galopant ventre à terre au haut de l'empire éthéré, et au même instant, un tourbillon de nuées, ou toute autre chose, rapporta Suzanne, qui retomba justement sur le monticule d'où, quelque temps auparavant, elle avait été merveilleusement enlevée, ou du moins avait paru l'être. D'une voix mourante, elle appelait à son secours. L'épée à la main, suivie de toute la compagnie, je courus aussitôt vers elle, mais besoin était plutôt d'un chirurgien que d'un chevalier. La pauvre jeune fille se trouvait dans un état affreux et difficile à dire. Tout son corps était moulu et déchiré, ses yeux étaient fixes et pleins de larmes et semblaient cloués au fond de leurs orbites. Il fallut la transporter en toute hâte dans une espèce de masure abandonnée, située dans le lieu le plus reculé du parc, où, me l'assura-t-on plus tard, elle demeura plusieurs jours entre la vie et la mort. Quand je vis Suzanne dans cet état déplorable, je m'approchai du moine et je lui dis sévèrement « Décidément, monsieur, je renonce à mon droit de partage sur le trésor. Vous connaissez mon peu de goût pour les richesses. » Ce n'était que par un simple motif de curiosité, ce que j'en faisais, mais il serait impossible à mon cœur de prendre part plus longtemps aux tortures de cette malheureuse enfant. « Pardieu, vous plaisantez, cher comte !» me répondit gracieusement notre homme, recevant cette sortie avec son sourire accoutumé. « Cet accident n'est rien. Croyez-moi, je vous le dis en confidence, à vous seul. Le diable a donné sa parole. » Qu'à la prochaine lune, il livrerait le trésor. Arrivé à cette division de son récit, M. Brederode demandait d'ordinaire aux prisonniers qu'il écoutait, quelquefois aux nombreux auditoires qui s'étaient formés autour de lui, aux heures de promenade dans le jardin du donjon ou sur la plateforme de la Bastille, si l'on désirait qu'il fît connaître en quelques mots, avant de pousser plus loin vers ce qu'il appelait la péripétie de ses malheurs, ce que c'était que le trésor de la caverne d'Arcueil, ou plutôt, quelle était l'origine de cette croyance ancienne et générale. Rien ne plaît tant à l'esprit de l'homme que l'histoire des richesses confiées mystérieusement à la terre, surtout à l'esprit de l'homme malheureux, car dans ces biens que souvent une pierre ou quelques pieds de poussière seulement dérobent à nos regards, et qu'un hasard peut livrer à l'un comme à l'autre, il voit l'unique secours qui saurait le racheter de ses peines. Le laboureur que le besoin obsède ne donne pas un coup de pêche dans son champ amaigri et pierreux sans se pencher et prêter l'oreille pour écouter, s'il ne s'est pas fait sous le choc de son fer quelque bruit sonore. Plus un peuple est devenu misérable, plus chez lui l'existence merveilleuse des trésors enfouis est une idée importante et commune. De Merouedro aux Algarves, de Tolède à Grenade, il n'y a pas un Espagnol en manteau troué, n'ayant ni poche ni baravedi, qui ne compte sur la découverte prochaine de quelqu'un des immenses trésors que les Maures cachèrent, dit-on, à leur départ, jusque dans les fondements des édifices, jusque sous le lit des rivières. Si l'on pouvait retourner notre ville comme on retourne una tortilla, une omelette, disent sans cesse les bonnes gens de Salamanque, on y trouverait plus d'or que le Nouveau Monde en a fourni et en fournira. Aussi les compagnons d'infortune de M. de Brederode accueillaient-ils avec empressement sa séduisante proposition. Une telle digression pouvait-elle ne pas ajouter au plaisir qu'il prenait naturellement à son intéressante histoire? Il est vrai que notre jeune seigneur hollandais avait une grâce persuasive toute particulière lorsqu'il laissait courir son imagination et sa parole. On quittait promptement avec lui le triste domaine du réel, chose bien douce pour de pauvres gens en captivité. On trouait promptement sa coque et, comme le papillon essorant ses ailes aux vives couleurs, on s'en allait flâner, voltiger, loin des verrous et de la discipline, dans une vie toute de fantaisie et de caprice. Lorsque M. de Brederode s'était fait signer ainsi sa nouvelle seuil de route par son auditeur ou son auditoire, il commençait alors, avec sa voix cinglante et moqueuse, qui savait donner du prix aux particularités les plus oiseuses, aux moindres détails, l'espèce de narration qui va suivre. Nous nous sommes fait un devoir, comme pour ce qui se précède, de n'apporter aucun changement, ni dans le fond ni dans la forme de ce récit, de peur de substituer la raison glaciale et les draperies étiquetées d'un esprit moderne aux oripeaux et franches boutades d'un vieil esprit. Mais laissons donc parler M. de Brederode. En histoire, de même qu'en grammaire, reprenait-il, tout à son étymologie, ou connue ou cachée, il n'y a pas de clairvoyance, si absurde qu'elle puisse être, qui n'ait sa source quelque part. Et en ce qui concerne l'existence d'un trésor enfoui dans la caverne d'Arcueil, puisque vous voulez bien me le permettre, voici le fait net et positif qui, non sans beaucoup de raisons, avait donné lieu à cette opinion vulgaire. Dans les dernières années du règne du bon roi Henri IV, du moins c'est ainsi que l'aventure se raconte, vivait à Paris un vieil orfèvre en grande renommée pour les choses de sa partie et pour beaucoup de choses qui n'en étaient pas, comme chacun alors le pouvait savoir. Sa maison, bien célèbre, mais d'assez triste apparence, était située dans une sorte de place ou d'enfoncement derrière les bâtiments du vieux Louvre et se composait d'un mur en pignon sur la rue, peinturé d'une certaine couleur verte, percé d'une seule ouverture étroite en manière d'entrée, ce qui lui donnait la selle l'air d'une tirelire, avec quoi d'ailleurs elle ne laissait pas que d'avoir plusieurs autres ressemblances. Elle avait bien eu jadis une paire de croisées, Mais pour des raisons qu'il vous sera facile de déduire dans la suite, un bandeau de plâtre y avait été solidement appliqué. Les poètes n'en font pas moins sur les yeux de l'amour. Au-dessus de la porte, et c'était le seul objet qui pût faire soupçonner extérieurement ce qui se vendait dans ce lieu, il y avait cloué sur un morceau de charpente un bassin de cuivre ciselé, au fond duquel se distinguait, sous la rouille des armes de blason, avec cette légende en langue et lettres étrangères, Gold ist gut, l'or est bon. Vous voyez par cette devise que Maître Jean d'Anspach, joaillier de la couronne, ne se targuait pas d'hypocrisie, qu'il ignorait ou affectait d'ignorer absolument l'art vulgaire aujourd'hui de rougir de ses propres sentiments. Car si cet homme avait un défaut capital, hélas, qui de nous est sans reproche, c'était celui d'aimer un peu trop la matière qu'il mettait en œuvre. Il était venu autrefois, dans sa jeunesse, du margrava d'Anspach, son pays, avec la trousse de cuir et le simple tablier de compagnon. Mais l'habileté qu'il avait acquise en Allemagne dans l'art d'exécuter sur les métaux précieux des incrustations et des nielles n'avait pas tardé à faire de lui l'ouvrier à la mode, le bijoutier du roi et de la cour. Laborieux et sombre, notre Allemand fit d'abord assez rapidement une fortune honorable, qui peu à peu, l'âpreté au gain s'en mêlant, finit par être, pour le temps et pour l'homme, véritablement colossal. Certes, au milieu de son bonheur, il avait été d'une grande lésinerie. Certes, il avait vendu dûment et cher de beaux joyaux au roi pour ses maîtresses et aux maîtresses du roi pour leurs amants. Mais quelque profonde qu'eût été sa parcimonie, mais quelque nombreuses qu'eussent pu être ses fournitures d'anneaux, de pendants, d'écrins et de caps, pour Jacqueline de Bueil, pour la somptueuse Madame Gabrielle ou pour Madame de Verneuil, jamais ces richesses n'auraient atteint leur chiffre prodigieux s'il n'avait mêlé à ses travaux naturels de certaines opérations de finance sourdes et sous-marines, d'une moralité plus douteuse, telles que le prêt sur gage et l'usure au dernier vin. Sa boutique avait été le champ où s'étaient fauchés bien des héritages en herbe. La jeune noblesse, surtout, y avait perdu la fleur de ses écus, sinon la fleur de sa chevalerie. En un mot, puisqu'il faut quelquefois appeler les choses par leur nom, Maître Jean d'Anspach était une de ces âmes sales dont parle la Bruyère, pétrie de boue et d'ordure, éprise de gain et d'intérêt, comme les belles âmes le sont de la vertu et de la gloire. On ne voit pas communément, sans quelque petit sentiment d'envie, le bonheur le plus mérité descendre sur le toit du prochain. Et c'est le lot de ceux qui sont traités durement par la fortune, cette espèce de demi-déesse aveugle et stupide, plutôt faite pour servir l'avoine dans une hôtellerie que pour disperser le bien-être aux anges, aux humains et de s'égayer aux dépens de ceux auxquels elle s'est si bêtement avisée de sourire. Notre homme prêtait justement un large flanc aux moqueries. Son avarice inouïe, sans exemple, incalculable, fournissait à la méchanceté publique le thème le plus plaisant et le plus fertile sur lequel le commun ne tarissait pas. On l'accusait de ne s'être pas marié par économie et d'avoir dit plusieurs fois qu'il aurait bien pris une compagne s'il avait su pouvoir en trouver une comme la femme de Lot, changée en statue de sel, afin de manger sa soupe moins fade et de frauder les droits de la gamelle. On prétendait, ou que sais-je, et vraiment je suis embarrassé pour vous faire comprendre la chose bien honnêtement, que pour s'asseoir, de peur d'user la partie la plus essentielle du vêtement, la plus nécessaire, il rabattait ordinairement son haut-de-chausses sur ses talons et montait ainsi à nu le banc de chêne de son comptoir, comme faisaient les cavaliers numides sur leurs chevaux sauvages, si nous en croyons l'Antiquité. On imaginait encore mille choses plus ou moins cruelles ou bouffonnes. Mais ces deux traits profondément caractéristiques peuvent nous suffire, je pense, pour juger de l'étendue d'une aussi énorme ladrerie, avec laquelle d'ailleurs nous aurons encore beaucoup à démêler. Maître Jean d'Anspach, plongeant et replongeant dans ses coffres, espionnant son ombre, barricadant ses armoires et verrouillant ses portes, avait coulé des jours nombreux et fort bien remplis, quand il eut enfin commencé de sentir que, concurremment à ses richesses, il avait amassé beaucoup d'années, et il se dit « Ben, ce n'est pas tout que de savoir acquérir, il faut savoir conserver. Et vraiment, maintenant que je perds de ma vigilance et de mon énergie, il n'y a pas de sûreté à demeurer plus longtemps ici dans une maison si mal close et bâtie sans précaution sur le bord de la voie publique. N'attendons pas, d'ailleurs, pour tirer profit de notre achalandage, que notre clientèle, décimée chaque jour par la faux du temps et de la mort, soit descendue tout à fait dans la tombe, et retirons-nous dans un lieu plus propice, où nous pourrons goûter enfin, avec loisir et garantie, le précieux fruit de notre persévérance et de notre industrie. » En conséquence, il avait donc vendu son atelier d'orfèvrerie, un prix dans tout départ fort acceptable, et s'en était allé couvert à l'écart son butin dans une fort belle maison seigneuriale que depuis quelque temps il possédait à Arcueil. Cette propriété d'une valeur considérable au moyen des intérêts liés et intérêts, des renouvellements et des répits, avait passé entre ses mains des mains d'une pauvre et noble dame obérée après la mort de son époux et qui, à la faveur de ce nantissement, lui avait fait l'emprunt d'une assez modique somme. Quant à ce qui regardait sa maison de joaillerie, il eût été certainement beaucoup plus digne d'un oncle de la laisser à un jeune neveu, l'enfant orphelin d'une sœur, que, sous prétexte de je ne sais quelle étude, des tuteurs bien avisés avaient envoyé à Paris afin qu'il fût plus à portée de la riche succession qu'il attendait. Mais, chez maître Jean d'Anspach, la voix du sang ne parlait pas si haut. Bien loin de là, il voyait avec ennui et méfiance ce jeune homme, qui pourtant n'était guère fait pour donner de l'humeur ou de l'ombrage. Il aurait bien voulu l'engager à retourner en Allemagne, ou tout au moins lui fermer sa porte au nez. Mais le jouvenceau, d'un esprit aimable, insouciant, enjoué, glissait, frétillait comme une anguille à travers les mauvais vouloirs et les fâcheries de son oncle, sans en faire plus de cas, sans y prendre plus de garde. Et tandis que chacun autour de lui proclamait maître Jean d'Anspach un être bien vilain et bien haïssable, lui se contentait de sourire et de trouver le bonhomme original. Une fois emménagé et installé dans sa maison d'Arcueil, maître Jean s'y barricada comme un consul au Caire par un temps de contagion. Des croisés eurent leur contrevent scellé à demeure, d'autres furent si bien garnis de fer qu'elles ressemblaient plus aux grilles de Saint-Laurent qu'à des fenêtres. À la porte d'entrée extérieure, un petit judas, garni d'un grillage épais et serré, fut pratiqué dans l'épaisseur du panneau afin de pouvoir répondre à qui heurterait sans ouvrir. Au bout de chaque allée, fut creusé et appareillé un piège à loup et des tessons de verre et des bouteilles cassées furent placés en guise de chevaux de frise sur le chaperon des murs. Voilà l'air riant et pastoral que notre vieux orfèvre, maître Jean l'Avare, comme l'appelait le peuple de Paris, sut donner tout d'abord à sa maison de plaisance. Et dès qu'il put s'y croire suffisamment encloisonné, il s'y enfonça dans la retraite la plus absolue, rompant pour ainsi dire avec toute créature et toute habitude humaine. Ce nouveau genre de seigneur ne fut pas, comme on le pense bien, sans faire une vive sensation dans le pays. Au village, vous le savez, le moindre événement produit toujours l'effet d'une noix tombée parmi les singes. Mais ce qui vint mettre le comble à l'étonnement et exciter au plus haut point la curiosité générale déjà si fortement éveillée, ce fut une douzaine d'ouvriers allemands, que maître Jean avait fait venir à grands frais de son pays d'Anspach. Ces hommes, logés dans l'intérieur du château, y avaient passé plusieurs mois, et durant leur séjour, on avait vu apporter une quantité considérable de matériaux divers, de pierres, de plâtre, de quoi faire une construction très importante. Chacun s'était attendu naturellement à voir s'élever, comme par enchantement, quelques tours à observer les astres, ou tout au moins deux belles ailes s'ajouter au corps massif et caduc du vieux pavillon. Ce qui pourtant n'était guère dans les allures du bonhomme. Cependant, rien de semblable ne s'était fait, ni tour, ni aile, ni donjon, pas la moindre bâtisse apparente. Peu à peu seulement, les matériaux avaient semblé disparaître, et un beau jour, les ouvriers allemands étaient repartis secrètement comme ils étaient venus, pour retourner sans doute dans le fond de leur détestable pays, je veux dire dans le margraviat d'Anspach. Quelle besogne de sorciers ces braves teutons avaient-ils donc faite? À quoi diable avaient-ils employé tant de temps et de matériaux? On avait bien cherché à s'en rendre compte en espionnant par-dessus les murs de clôture, mais on n'avait rien pu voir. On avait bien essayé quelques questions auprès des ouvriers lorsqu'ils allaient d'aventure dans le village. Mais ces sauvages de la Germanie ne savaient pas un mot de français et personne à Arcueil ne connaissait l'infernal patois de Luther. Il fallut donc s'en tenir aux conjectures et, par compensation, il est vrai de dire qu'on ne s'en fit pas faute. Maître Jean avait l'esprit bien biscornu, bien bizarre, mais jamais certainement son cerveau détraqué et sa tête en délire n'auraient pu suffire à enfanter tous les projets saugrenus qu'on lui prêta généreusement dans cette occasion. À partir de cette époque, la séquestration de maître Jacques d'Anspach fut plus rigoureuse encore et plus complète. La porte ne s'ouvrit plus désormais que de loin à loin devant son jeune neveu, qui prenait trop de plaisir à la comédie que lui donnait son bon oncle pour lui faire grâce de ses visites. L'autre n'aurait certes pas adouci sa consigne en faveur de ce démon qu'il redoutait, s'il ne l'avait cru capable, au besoin, sous le prétexte de ne pouvoir résister à l'ardente affection qu'il entraînait, d'enfoncer le guichet et d'escalader les murs. Puis, comme ce jeune homme, après tout, lui rendait parfois le petit service de lui apporter de la ville les menus objets dont il avait besoin, et dont il oubliait rigoureusement de lui rendre la valeur, il prenait ce mal en patience, se contentant de le tenir continuellement sous son œil, de ne lui offrir aucune espèce de réfection, et de l'enfermer sous triple D dans une grange, quand par hasard il demandait à prendre sa couchée au château. La propriété de maître Jean d'Anspach contenait bien 6 arpents d'eau de mur, dont 2 seulement étaient boisés. Pour cultiver et maintenir en bon état une pareille superficie, il aurait fallu beaucoup de bras, un jardinier en chef et plusieurs aides. Mais notre Bavarois avait une trop grande épouvante de tout ce qui appartenait à la race humaine pour souffrir sans aucun prétexte qu'un étranger mit le pied dans la maison et vint partager son toit inhospitalier. De même qu'il n'avait jamais voulu admettre ni compagnon ni apprenti à sa forge, de même il ne voulut jamais céder de personne dans son jardin. Si bien que parterres, potagers, vergers, prés et parcs ne tardèrent pas à n'être plus qu'un fouillis impraticable, sauf quelques petits espaces où maître Jean se mettent un peu de grain et des légumes. Cependant, le mince produit de ce travail et ce que la nature lui mettait spontanément sous la main suffisait pour soutenir son existence et surtout la plénitude de son coffre-fort. Depuis qu'il vivait là, retiré, il n'avait pas changé pour sa subsistance un seul écu. L'été, c'était des racines qu'il extirpait du sol, les fruits des arbres, le lait de quelques chèvres qui vaguaient dans les jachères. L'hiver, c'était les légumes et les fruits de garde, mais jamais une bouchée de pain n'approchait de ses lèvres. Il écrasait son blé entre deux cailloux, et l'espèce de farine qui en résultait lui servait à faire une manière de brouet qui n'eût certainement pas fait envie aux lacédémoniens. Il avait de même amené son costume à la plus complète réduction. Des lanières de cuir ou des sabots aux pieds, une couverture de laine qu'il avait percée dans le milieu d'un trou pour passer la tête à la manière de certains Indiens d'Amérique, et qu'il attachait autour de son corps au moyen d'un bout de corde, composait à peu près tout son équipage. Et certes, c'eût été un spectacle étrange et effroyable pour quelqu'un pris à l'improviste que l'image de ce vieillard enguenillé, réduit à l'état de squelette, se traînant parmi les chauves et les broussailles, ou accroupi et ramassé sur lui-même, suivant de place en place, durant les journées froides, les rayons obliques d'un soleil sans chaleur, comme une bête fauve que le froid transit, comme un mendiant qui cherche à ranimer ses membres exténués et malades. Usant du droit que lui donnait son saint caractère, le curé d'Arcueil, un bon et digne prêtre, était la seule personne qui échangeât avec notre solitaire, de loin à loin, quelques paroles, qui osa relancer le sanglier jusque dans son fort. Quand il passait dans ses promenades devant la porte, il frappait hardiment jusqu'à ce que l'autre fût venu, non pas ouvrir, mais placer à son petit Judas son œil miroitant et vitreux. Et alors, tout en les cachant sous la forme aimable d'une plaisanterie, il lui envoyait, bien et dûment empaqueté, mais d'une façon vague et détournée, de bons avis, de petites admonitions, qui pouvaient donner moult à penser à Maître Jean d'Anspart, pour peu qu'il lui restât quelques lambeaux de sa première âme. Un jour, il lui disait, « La charité et la surveillance du pasteur doivent s'étendre sur tout le bercail. Sa dilection est à la brebis malade comme à la brebis égarée. Permettez-moi, monsieur, bien que j'ai le regret de vous savoir religionnaire, de m'informer avec empressement si vous êtes mort ou vif, ou si rien ne manque dans l'abstraction où vous vous maintenez, aux besoins de votre corps et de votre esprit. » Là-dessus, Maître Jacques congédiait sans l'entendre le bon ecclésiastique et refermait brusquement son vasistas. Une autre fois, monsieur le curé, après s'être fait ouvrir de même le petit Judas, se contentait de jeter doucement cette parole « Rare solus », voulant faire allusion sans doute à certain aphorisme de saint Augustin. À quoi le vieux lynx répondait d'un air plein de malice, et par le même texte, voyant le bon prêtre suivi de sa servante « Nunquam duo », jamais deux. Que votre moisson, dans les jours fructueux de l'été, ait été abondante ou médiocre, lui disait-il certains autres jours. Votre moisson vient de Dieu. Faites 10 parts, prenez-en 9 pour vous, mais que celui qui vous a envoyé le 9 autres ait au moins la 10e pour lui. La dîme, monsieur le prêtre, répliquait le vieil orfèvre, est un odieux impôt, levé sur celui qui travaille, par celui qui n'en semence point. C'est inutile, monsieur, je ne donnerai rien. La parole de Dieu, monsieur le religionnaire, est un grain non moins précieux, reprenait le noble pasteur, que le grain du froment ou du seigle, et celui qui le répand dans les sillons de l'esprit peut bien être compté aussi pour un laboureur. La dîme, d'ailleurs, monsieur, est le tribut le plus juste, elle demande où il y a et s'abstient où il manque. Durant l'hiver, quelquefois, le Saint-Recteur lui disait aussi « J'ai des pauvres qui souffrent et qui ont froid. Que pouvez-vous faire pour nous aider à les consoler, à les couvrir ?» Mais l'homme, au cœur desséché par l'avarice, répondait « Ne voyez-vous pas que moi-même je suis pauvre et que je vis ici à l'écart dans le plus profond dénuement ?» Il affichait toujours ainsi de mettre en avant sa hideuse parodie de la misère, afin de donner le change sur sa condition et d'entourer ses richesses de plus de sûreté.